on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Ils sont deux, le visage rayonnant, un couple de parents élégants, leur fille sur les genoux, pas de couche à l'horizon, ni d'ailleurs aucun désordre. Leur bonheur est figé en photo, affiché sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou dans des magazines. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de photos. Et pourtant, si vous êtes parents, les voisins, les voisines, vous dont les yeux sont sûrement rougis par la fatigue, les nerfs épuisés par votre course après le temps, vous aurez peut-être un peu de mal à croire à ce mythe du parent parfait. À l'heure où l'arrivée d'un enfant est souvent choisie, planifiée, parfois même le fruit d'un long parcours médical, a-t-on encore le droit de mal la vivre, pire, de se plaindre? Oui, répondent nos deux invitées du jour. Elles ont chacune à leur façon donné la parole à des femmes et à des hommes sur ce moment difficile que sont la grossesse et les premiers mois. J'ai le plaisir de recevoir Fabienne Sardas, psychologue, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez le livre « Maman Blues », du bonheur et de la difficulté de devenir mère, un livre inspiré de vos 10 années de travail au sein d'une maternité parisienne. Et Réjeanne Hérault, journaliste indépendante, bonjour.
Bonjour.
Vous avez quant à vous écrit « Un bébé, enfin », un ouvrage tiré de votre propre expérience de la maternité. Vous qui, à 38 ans, étiez promise à l'infertilité, c'est en tout cas ce que vous a dit un médecin parisien. Aujourd'hui, vous êtes mère d'un jeune garçon.
C'est ça.
Quel âge a-t-il ?
Il a 5 ans et demi.
Et nous serons aussi en ligne avec une historienne de la maternité, Yvonne Knibiller, qui, à 95 ans, est toujours passionnée par les nouvelles générations de mères. Et nous parlerons aussi, évidemment, des pères. Ne vous inquiétez pas, les voisins. Et vous, d'ailleurs, les voisins, les voisines, qu'en pensez-vous si vous êtes parents ou si vous êtes en train de vous préparer à l'arrivée d'un nouvel enfant? Racontez-nous vos doutes, vos soucis, vos joies, puisqu'il y en a aussi, il ne faut pas l'oublier. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, 33 1 84 22 71 71, et bien sûr, vous nous écrivez comme toujours sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Et vous réagissez déjà sur Facebook, les voisins. Yves est à Kisangani, en République démocratique du Congo. Il nous écrit « Il n'est pas question d'avoir un enfant si on n'a pas la capacité de l'éduquer et de lui apporter l'amour nécessaire. » Sako nous écrit, lui, depuis Conakry « Être parent peut faire peur. C'est une lourde responsabilité. » Abdelaziz, d'ailleurs, a lui aussi l'air plutôt effrayé. Il est à Cotonou, au Bénin. Il nous écrit « Il m'arrive d'avoir peur de devenir parent avec tout ce que les autres qui sont déjà parents me racontent de leur vie. On dirait que ça nécessite beaucoup de patience et beaucoup de courage. » Et Emmanuel, qui nous écrit depuis Yaoundé au Cameroun, je le cite, « La vraie crainte, c'est comment s'occuper de l'enfant une fois né? Comment faire pour bien le nourrir? Quelle éducation dois-je lui inculquer? Ai-je assez de temps à lui consacrer? Et suis-je prêt, surtout, à renoncer à tout pour lui donner une place prioritaire dans ma vie ?»
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble, c'est votre vie au quotidien.
Sept milliards de voisins
et la planète sépare.
Mais tout de suite, témoignage. Celui d'Amélie, 36 ans, réalisatrice de documentaires à Paris. Elle est célibataire, elle n'a pas encore eu d'enfant, mais elle y pense souvent, rattrapée par l'horloge biologique certainement. Et puis, elle le dit elle-même, par la pression des normes sociales. Cerise Maréchaux lui a ouvert son micro.
Dernièrement, je ressens un appel du ventre. Je ressens le besoin de vie, en fait, de le remplir, de le sentir gonflé, de le sentir habité, ouais. Et ça me surprend énormément parce que, dans l'idée d'avoir un enfant, il y a une immense partie de moi que ça terrorise. Avant tout, je crois que c'est un peu la peur de me perdre, en fait. C'est-à-dire que j'ai un mode de vie où je suis libre, je suis indépendante, si j'ai envie de voyager quelque part, de partir, de vivre ma vie, de me lever tard, des choses très basiques, hein, je peux le faire. Et c'est vrai que j'ai la sensation que si j'avais un enfant, tout ça serait pas possible en fait. Bah, c'est vrai que des fois, l'idée d'avoir un enfant me paraît un peu comme rentrer en prison. C'est affreux de dire ça, parce que je suis sûre qu'en plus je ressentirais pas ça quand ça arrivait. Mais l'idée, oui, de perdre sa liberté et de perdre peut-être un équilibre psychologique aussi. Parce que jusque-là, dans ma vie, quand les situations ne me convenaient pas, tous les 3-4 ans, je bougeais, je partais vers quelque chose de nouveau. Je changeais de métier, je changeais de ville, je changeais de pays. Une fois que t'as un enfant, tu peux plus faire ça. ta vie ne t'appartient plus. Mais je trouve ça hyper angoissant. Quand on est responsable que de sa propre vie, on peut courir un peu des risques. Enfin, je ne suis pas non plus une casse-cou, mais je fais de l'escalade, je vais partir, je vais voyager seule, à des endroits sans me poser des questions, etc. Je n'ai pas beaucoup peur dans la vie. Et c'est vrai que d'un coup, la présence d'un enfant, bah, t'as peur, quoi. T'as peur pour lui. Je pense que j'aurais peur pour moi aussi, tout à coup. Ouais, cette peur d'avoir peur, parce que je crois qu'être parent, c'est quand même avoir peur, souvent, hein. Ça, c'est vraiment lié, effectivement, à cette idée de changer, de plus être la même personne. Mes proches qui ont eu des enfants, bah, d'un coup, ils étaient plus trop là pour moi, pour non seulement plus trop là, mais en plus très différents de ce qu'ils étaient avant, beaucoup moins légers, bah, tous. Mais j'ai quand même beaucoup d'amis qui, tout à coup, n'avaient qu'un seul sujet de conversation, aucune capacité d'attention sur autre chose, aucune ouverture sur autre chose. Là, comme ça, quand j'imagine la personne que je serai en étant mère, il y a plein de côtés chez elle qui ne me plaisent pas. Après, ce qui me fait aussi très peur, c'est que je suis quelqu'un de plutôt féministe. Et quand je regarde autour de moi, ce que je constate, c'est que systématiquement, même dans les couples que je connaissais qui étaient relativement égalitaires tant qu'il n'y avait pas d'enfants, une fois qu'il y a des enfants, la femme en fait énormément plus. C'est elle qui se lève au milieu de la nuit pour s'occuper de ses enfants, c'est elle qui va faire un peu toutes les tâches entre guillemets ingrates, c'est-à-dire changer les couches, donner à manger. Enfin, quand c'est tous les jours, plusieurs fois par jour et que c'est toujours toi, ça le devient. Ah, par exemple, j'ai du mal à supporter le bruit de façon générale. Alors je me dis, en étant épuisée après un accouchement, à un moment, est-ce que je vais réussir à gérer si mon enfant pleure? Est-ce que je vais pas m'énerver? Est-ce que bon, le baby blues, il a bon dos. N'importe qui qu'on priverait de sommeil des jours et des jours et qu'il y a des bruits hyper forts et stridents dans les oreilles, tu pètes un câble. Enfin, à Guantanamo, c'est quand même le type de technique de torture qu'ils utilisent. J'ai peur de devenir folle, en fait, à un moment, être seule à porter cette charge qui est énorme, en fait. Et puis le dernier truc, c'est le boulot. J'ai un boulot qui est assez précaire, donc je réalise des documentaires, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de moments où je ne travaille pas, j'ai donc des revenus qui sont irréguliers, et ça me convient, même si des fois je trouve ça angoissant, ça me convient. Mais avec un enfant, c'est plus compliqué en fait de gérer cette incertitude, donc ce côté-là me fait très peur. Mon métier implique aussi des déplacements à l'étranger, des fois un peu longs, on peut partir plusieurs semaines sur le terrain. Comment gérer ça avec un enfant? Je m'imagine arriver voir une boîte de production, donc les gens qui vont produire un documentaire pour moi, être enceinte et leur dire « faites-moi travailler ». C'est sûr que ce ne sera pas possible. Alors est-ce que ça veut dire renoncer à ce métier qui est quand même une passion à la base? Peut-être que si j'avais un enfant, d'un coup, ça ne me pèserait plus. Mais là, comme ça, l'idée de devoir renoncer à tout ça me fait peur aussi. Avoir un enfant, se lancer dans la maternité, c'est d'une certaine façon accepter de régresser en termes de droits, de liberté, d'égalité sur le terrain des droits de la femme. Mais en fait, je suis persuadée que si j'avais un enfant, ça se passerait très bien. Ce qui est hyper angoissant, c'est le fait de se jeter à l'eau, d'y aller. La contraception, elle a en même temps été une vraie libération pour la femme, parce qu'on a pu commencer à faire des choix pour soi-même. Mais ça a été aussi une pression supplémentaire immense, parce qu'aujourd'hui, on décide d'avoir un enfant. Moi, je crois que si ça m'était arrivé, certainement que ça m'aurait tout à fait convenu et que je ne me serais pas posé autant de questions. Alors peut-être je me dis des fois le fait que personnellement j'ai pas toujours rêvé d'avoir un enfant et que j'ai pas passé mon temps projeté dans ça, peut-être que ça m'évitera d'être déçue, contrairement à beaucoup de mères qui se sont toujours rêvées mères. Moi ça m'a toujours tellement fait peur que peut-être que finalement je me dis « oh bah en fait c'est vachement plus cool que ce que je pensais ».
Très beau témoignage signé Cerise Maréchaux. Voilà donc ce qu'une femme, pas encore maman, imagine ce qui l'attend. Je vous ai vu toutes les deux sourire, hocher la tête d'un air entendu. Fabienne Sardas, comment vous réagissez?
Oui, moi je souris parce que je la vois déjà maman, cette femme. Elle est complètement maman.
Elle se pose des bonnes questions.
Dans son interrogation. Oui, c'est-à-dire c'est plus qu'une interrogation. C'est qu'on sent que déjà tout ça travaille tellement, fait un creuset, fait une place à l'enfant, une place d'inquiétude, de peur. C'est dans toutes ces émotions-là que l'enfant naît. Hein. Alors, il y a une peur de régresser, mais moi, je n'y vois qu'une capacité à grandir qui peut passer par des périodes de déstabilisation. Ce qu'on entend, c'est oui, je vais sortir de ma zone de confort. Ça va être irréversible. C'est évident, c'est ça qui est inquiétant. Bien sûr, dans l'irréversibilité des choses, on n'aime pas du tout ça aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on sent qu'aujourd'hui, les femmes ne sont plus conscientes, Cerise vraiment dit tout ça, hein, toute cette analyse très très fine de ce qui attend. Donc à la fois on est plus conscient et on est beaucoup plus inquiet, et il y a toujours ce diktat là de la réussite, tout réussir.
Donc il faut être la mère qui réussit.
Voilà, on va réussir, on va tout gérer, mais non. D'abord on a le temps, on a une vie, et cet enfant là va s'adapter à cette mère là. Chaque enfant est fait pour une mère, chaque mère pour un enfant, et voilà, et ça va y aller. Hein.
Vous retrouvez Réjanéro dans certains de ces mots ?
Ah, pas dans certains de ces mots, dans tous ces mots. Oui. Je crois qu'il y a, de mon histoire, de l'histoire des femmes que j'ai récoltées pour le livre, c'est typique d'une génération de femmes à qui on a appris, et tant mieux, à maîtriser leur vie, à faire leurs choix, à mener leur barque. Mais dans cette capacité de maîtrise, à un moment, l'enfant, ça vient tout bousculer. Parce que là, on sait qu'on ne va plus maîtriser, on ne sait pas si on sait faire, ça pose des questions très identitaires. Elle le dit très bien, la jeune femme, hein. Elle dit je suis comme ça, mes amis ont changé. Mais donc tout ça, c'est des jugements sur soi, c'est des jugements sur ses amis. Et qu'est-ce que c'est qu'une identité ? On arrive à 36 ans avec une idée assez construite de ce qu'on est, une idée assez construite de ce que c'est que la liberté aussi. C'est-à-dire la liberté, et moi j'étais exactement comme elle, on fait le même métier. Donc tous les 3-4 ans, je change, je pars à l'étranger, j'ai envie de me reposer, je me repose. Là, no way,
mais ça ne va plus être possible. On a peur que la grossesse vienne tout basculer.
Seulement, est-ce que c'est ça la liberté ? Est-ce que la liberté, c'est pas se dire « je me fous de ce que vous pensez, je me fous de ce que je vais devenir, j'en ai envie » et elle le dit très bien. C'est-à-dire qu'elle a l'appel du ventre. Et si c'est déjà là, dans le bassin, dans le corps, c'est que l'envie, elle est là.
Qu'elle est prête.
Et c'est que ça qu'il faut écouter. C'est-à-dire qu'à un moment, on est devenu à bon escient, très cérébrale, très intellectuelle, très planificatrice, et tant mieux.
On intellectualise
mais
beaucoup de
questions. Mais
c'est
qu'à un moment, le retour au corps, le retour à l'envie, le retour au désir... Et ben c'est ça qui doit nous faire évoluer. Et peu importe que ça change, parce que c'est des phases, et que ce qu'on va ouvrir en accueillant un enfant, aussi douloureux qu'on le soit, si on le fait avec la liberté de se dire c'est moi et j'accepte d'être là, j'accepte de faire les couches, oui c'est difficile, et voilà quoi. Mais c'est très typique d'une génération de femmes, je crois que c'est évident.
Vous racontez la mise au monde de votre premier enfant qui n'allait pas de soi, après 8 ans sans contraception dans l'espoir d'avoir un enfant. Un médecin vous dit un jour, vous avez deux choix, adopter ou adopter. En gros vous êtes estampillé à ce moment-là infertile. Comment vous avez vécu ce moment-là et puis comment vous avez réussi à rebondir ?
Alors, sur le moment, c'était quelque chose entre la déception et le soulagement. Le soulagement, parce qu'après 8 ans d'infécondité, et je décidais enfin d'aller voir un médecin pour avoir un constat, le constat était clair. Il était temps que je ferme la porte. Ça, c'est fait. Vous n'allez plus m'ennuyer avec cette histoire d'enfant. C'est plus possible. C'est pas possible. Déception parce que je ne serai jamais mère, mais aussi parce qu'une part de moi était dans l'incompétence. Là-dessus, j'étais défaillante. Il y avait un point de ma vie où je n'arrivais plus à gérer, c'était celui-là. Voilà, des tas de nanas autour de moi pouvaient être maman, moi j'y arriverais pas. Donc une part de moi était déçue pour ça aussi. Je n'arriverais pas à donner un enfant à mon mari.
Contrairement à d'autres femmes.
Donc ça venait encore me titiller sur mon identité et sur ma capacité à accepter d'avoir besoin d'aide, donc d'un médecin, etc. et d'arriver à accepter une défaillance. Comment j'ai rebondi ? J'ai rebondi malgré moi. C'est-à-dire que j'avais tellement, comme la jeune femme qu'on a écoutée dans le témoignage, de peur, d'inquiétude, de renoncement possible, d'assignation en résidence, que ça allait me clouer avec cet homme toute ma vie, que j'allais devoir faire des concessions sur mon boulot, etc., que l'enfant, quand il est arrivé, c'était presque malgré moi. Et le travail que j'ai fait pendant les quelques mois qui ont séparé le verdict du médecin à l'arrivée effective de mon fils de manière complètement naturelle, c'est un boulot de retour au désir, c'est-à-dire de refaire ce qui me plaisait vraiment, c'est-à-dire de sortir de l'intellectualisation de ma vie pour refaire des choix qui étaient très sensoriels, en fait. Prendre du temps pour moi, refaire du grand reportage, me recoltiner à quelque chose de l'ordre de la sensorialité et de l'amour. Et de l'amour de ce que je faisais au quotidien. Et je crois que l'amour de ce qu'on fait, quand ça infuse en nous, quelle qu'en soit la raison, c'est aussi déjà la capacité d'accueillir un enfant, d'être dans l'amour.
Et pourtant, et ça vous le racontez toutes les deux d'ailleurs, il y a la peur de cet instinct maternel qui ne répond pas à l'appel. Vous, Réjanéro, vous posez vos interrogations du moment sur le papier, vous écrivez « Suis-je une dégénérée, une alien qui a raté le virage de l'instinct maternel ?» C'était une angoisse pour vous ?
C'était pas une angoisse, c'était un fait. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée avec cet enfant dans les bras, Et confrontée à la difficulté de ne pas y arriver, c'est-à-dire que j'étais encore une fois dans une volonté de maîtrise et dans cette image que j'allais tout bien faire tel que je l'avais imaginé, hein. Lui faire des compotes bio, m'occuper de lui merveilleusement, reprendre mon boulot auprès de 3 mois. Tout ça, c'était plus possible à un moment. Et que c'était là, c'est-à-dire que je n'y arrivais pas. Et la difficulté, c'est que comme je n'arrivais pas à l'exprimer, que j'imagine que toutes les femmes étaient dans l'instinct maternel sauf moi, je me pensais vraiment pour une dégénérée. Et je me sentais jugée par mon homme qui sentait bien qu'un truc n'allait pas. Donc c'était la pression, je me la mettais et j'avais l'impression qu'on me la mettait. Ouais.
Et puis vous avez finalement réussi à trouver cet instinct de mère. 7 milliards de voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Et nous sommes en ligne avec un auditeur, Benjamin, qui est à Kaffrine au Sénégal. Bonjour Benjamin.
Bonjour Charlie, bonjour les voisins.
Alors vous êtes un jeune papa depuis 2 ans, je crois. Alors racontez-nous votre expérience.
Oui, comme je le disais au stand-up tout à l'heure, je disais que la venue d'un enfant est toujours une équation à double inconnue. Et parmi ces inconnus, on se pose toujours la question à savoir si on sera prêt financièrement, psychologiquement et moralement.
Vous êtes posé ces questions-là, vous ?
Carrément.
Et notamment, être prêt psychologiquement, c'est-à-dire ?
Psychologiquement, on se dit, est-ce qu'on sera prêt à accueillir cet enfant ? Est-ce qu'on pourra lui donner une éducation aussi parfaite, même si elle n'est pas aussi parfaite que la nôtre ? Est-ce qu'on pourra lui donner, on pourra en quelque sorte maintenant la situer dans la vie, l'accompagner jusqu'à sa maturité par exemple, et même après, pourquoi pas ? Ça, ce sont des questions que l'on se pose psychologiquement. Déjà, même si on ne se pose pas psychologiquement, déjà c'est un partage qu'on discute avec madame par exemple, avec les voisins ou bien avec des camarades qui ont pu avoir par exemple des enfants, comment ils ont fait, tout ça sont des questionnements que l'on se pose.
Vous en avez parlé en tout cas aussi autour de vous, pour vous rassurer?
Surtout pour me rassurer. Pour mon cas, après la venue de l'enfant, de ma petite fille, elle se nomme Rebecca. Après sa venue, au moins, on a commencé à se stabiliser. Les questions ont commencé au moins à être réduites. C'est-à-dire qu'on s'est dit, maintenant, bon, elle est là, maintenant, on prend nos responsabilités. Après avoir pris nos responsabilités, là, on commence à se sentir plus léger. On commence à se dire, mais bon, c'était pas dur. Pourtant, ce n'est pas aussi dur que ça. Et en même temps aussi, ça nous a permis aussi de se stabiliser dans le couple, parce que déjà on commence à avoir un sujet de discussion avec madame, on commence à communiquer facilement, on commence à faire des projets aussi, on commence à au moins à partager certaines choses, l'achat des couches par exemple, là, on se sent impliqué avec la naissance de l'enfant. Mmh. C'est après la naissance de l'enfant, maintenant, on commence à se stabiliser, à se dire, mais pourquoi pas. Là, au moins, maintenant, socialement parlant déjà, si on revient au côté social, c'est-à-dire aux traditions, on se dit que maintenant, là, on ne va pas nous regarder du mauvais, parce que déjà, on peut avoir un enfant.
Vous savez que
la société traditionnelle africaine, en général, si vous êtes marié, après 6 ans de mariage, après 5 ans de mariage, si vous ne parvenez pas à avoir un enfant, déjà, il y a la pression familiale. Il y a maintenant la pression en quelque sorte maintenant de la société qui vous regarde pour dire en quelque sorte que c'est ce couple-là, il est marié, ça fait maintenant plus de 5 ans, plus de 3 ans, il ne parvient pas à avoir un enfant. Donc on se dit que en général, on rejette la faute sur la femme, on se dit que la femme est malade en général et on oublie l'homme, alors que des deux cas c'est possible, l'homme peut être malade comme la femme peut être malade en quelque sorte aussi, pas avoir des problèmes en quelque sorte au moins au niveau physiologique.
Merci beaucoup Benjamin pour votre témoignage très éclairant. En quelques mots, Fabienne Sardas, vous voulez réagir?
Oui, ce qu'on entend chez Benjamin, c'est alors d'abord c'est un joli témoignage parce que on sent un couple hein, derrière l'enfant, on les sent tous à trois, mais ce qu'on sent c'est une obligation de compétence. Alors on ne peut pas être, enfin c'est comme s'il y avait un métier de parent. D'ailleurs on parle maintenant du métier de parent,
on parle de burn-out. Et il y a une vraie voilà, pression pour réussir. On en parlera après le flash. Fabienne Sardas, Réjeanne Hérault, vous restez avec nous. Les voisins, les voisines, on attend vos points de vue, vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. À tout de suite.
RFI Talent presse
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez. pour parler aujourd'hui de l'étape de nos vies certainement la plus idéalisée, source de tous les fantasmes, la parentalité. Et pourtant, endosser le costume de parent ne va pas de soi, même si c'est un costume qui vous colle à la peau, avec sans cesse des doutes qui vous assaillent, la peur de ne pas être préparé, et puis l'impossibilité évidemment d'un retour en arrière. Un voyage au pays des jeunes parents attendris, alarmés, angoissés, en compagnie de Réjeanne Hérault, vous qui êtes tombée enceinte alors que vous n'y croyez plus, un parcours que vous racontez dans le livre Un bébé, enfin, et Fabienne Sardas, auteure de Maman Blues, du bonheur et de la difficulté de devenir mère.
Ouais, je voulais vous dire, depuis quelques mois, j'ai le grand bonheur d'être maman. Voilà. Bon, alors comme c'est les premiers mois, on me pose la grande question qu'on pose à toutes les mamans. On me dit alors ça va la nuit, ça va quand même, il dort bien, ça va. Ah, pour ça j'ai du bol, il dort comme un bébé, un petit bonheur. Hein. Et puis pour le réveiller, c'est facile, il suffit de le remettre dans son lit. Dormir comme un bébé, c'est une arnaque ça aussi. Hein. Mais moi on m'a pas prévenu. Hein. Vous avez vu un nouveau-né de près dernièrement? Bah viens, je te fais visiter, tu vas pas être déçu, regarde, ça n'a pas de cheveux, ça n'a pas de dents, ça bave, ça sent le pipi, quand ça sent pas autre chose, ça ne fait rien de ses journées. Hein. Si, ça demande à manger. Les premières semaines, souvenez-vous, toi t'es là, t'as des cernes, t'as les cheveux en pétard, tu chantes des chansons cheloues, oh c'est pas facile. Hein. Ah, je peux te dire que là j'ai compris l'expression « donner la vie ». Donner la vie, formidable. Depuis que j'ai donné la vie, j'en ai plus de vie. Ouais.
C'était l'extrait d'un sketch de Nadia Rose, humoriste française, Réjeanne Hérault, je vous ai vu sourire.
Oui, parce qu'on s'y retrouve, forcément.
Ces questions vous parlent. Alors, l'auteur français de bande dessinée Gottlieb, disparu il y a 2 mois, avait dépeint, lui, sa paternité, hein, pour parler aussi des pères, dans une jolie planche de BD où on le voit enchaîner un boulet de forçat, un boulet apparu le jour de la naissance de sa fille, avec ce texte « Me voilà avec un gosse sur les bras et une boule aux pieds. Je ne voudrais pas seulement t'aimer beaucoup, mais t'aimer bien. » Fabienne Sardas, comment les pères vivent-ils ce moment-là? Alors, le moment de la grossesse, peut-être, déjà, au départ?
Alors, le moment de la grossesse, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée, dont je parle dans le mien. C'est celui qui s'appelle La Couvade, un auteur canadien qui s'appelle Robert Bailly, qui disait « Je suis un pélican perplexe, anxieux, impuissant et même coupable. Et j'ai 9 mois pour devenir un père, pour faire de moi un père. » Moi, j'ai vu la plupart des pères sur une dizaine d'années en maternité. Je les ai vus toujours impuissants, toujours anxieux, toujours étonnés des humeurs de leur femme et très 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 inquiets du devenir du couple, du devenir de leur devenir, et dans une position d'arrière-plan totalement inconfortable. Très touchante, ne pas savoir quoi faire en effet d'une compagne qui change d'humeur, qui n'a plus d'idées rationnelles, qui s'inquiète de tout. Voilà, c'est comme ça que j'ai vu les pères. J'en ai vu de plus stables, mais à la fois leur compagne n'était pas contente de voir cette espèce de bloc comme ça, impassible. Donc,
c'est pas facile de trouver sa place, en fait.
Alors, dans ces pères, aux États-Unis, on parle des 3 F. Alors, on dit flight, fight et fear. Donc, soit ils deviennent bagarreurs, soit fugueurs, soit anxieux. C'est assez intéressant.
3 attitudes typiques.
Oui, 3 attitudes. Alors, on parle un peu d'un ado qui serait instable. Ça prête un peu à sourire. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas tellement d'espace. Hein, pas beaucoup de marge.
Réjeanne Hérault, de quel type était votre compagnon alors?
Alors, c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Je peux témoigner de la manière dont je le voyais. Il a été très présent. Pendant la grossesse, il n'y a eu vraiment aucun problème. Je crois qu'il m'avait même un peu sacralisée, et ça peut être un risque. C'est-à-dire, quand on devient une mère, la mère s'efface derrière la femme. On devient une espèce de truc qu'on ne peut plus toucher. Donc, quand on n'est plus touché, la femme s'indigne derrière la mère. Et après la naissance de mon fils, je crois qu'il n'a pas compris les difficultés que je vivais, mais aussi parce que moi, j'étais dans l'incapacité de les lui exprimer. Donc, c'est bien d'en vouloir à quelqu'un ou de dire il s'enfuit. Et s'enfuit, ça veut dire quoi? Quelqu'un me disait, une sage-femme me disait, un homme qui à la naissance d'un enfant se surinvestit dans son travail, peut-être qu'il ne fuit pas, peut-être qu'il prend sa responsabilité d'homme. de devoir gagner plus. C'est un réflexe ancestral, mais c'est pas forcément compris. Et la question qui est derrière tout ça, c'est vraiment le dialogue. C'est oui, on était deux, maintenant on est trois, comment chacun retrouve sa place? Et moi, je lui en ai voulu de pas être là quand le soir j'étais fatiguée, qu'il m'avait promis de me faire un bon repas et que le bon repas n'existait pas. Et donc je me dis, voilà, je ne suis plus qu'une mère au foyer et les promesses, je peux m'asseoir dessus. Donc, et je me suis crispée sur cette colère. Sauf qu'à un moment, c'était aussi à moi de lui dire, et au gars là, j'y arrive vraiment pas. Et ce qu'il a fini par comprendre, c'est que quand j'ai réussi à exprimer ça avec mes moyens à moi, qui n'étaient pas forcément bons, mais qui étaient cette espèce de flot émotionnel et de difficulté, il a d'abord cru que c'était moi qui avais un problème, mais c'est là de l'importance d'en parler aussi. C'est que quand il a lu mon livre, qu'il a rencontré d'autres femmes et que les autres femmes, parce que moi j'osais en parler, disaient « mais pour moi aussi ça a été super dur », il s'est rendu compte que c'était pas mon problème, que c'était là. Oui. C'était là et qu'il fallait aussi l'accepter et que c'était vraiment une relation qui était à redéfinir pour que chacun y retrouve sa place. Et moins on se sent soutenu par un époux, moins on comprend sa position et sa solitude, plus on se replie sur l'enfant, et plus, pour l'homme, l'enfant et la mère sont inaccessibles. Mmh. Donc ça devient un espèce de sac de nœuds où le couple, oui, peut exploser.
D'où l'importance de dialoguer dans ce moment charnière pour le couple. Nous sommes en ligne avec Yvonne Kniebiller, historienne de la maternité. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez longtemps travaillé sur les différentes visions du rôle de la mère au fil des époques. Alors, est-ce que cet idéal de la mère parfaite a toujours existé ?
On disait plutôt jadis une bonne mère. C'était celle qui aimait ses enfants et s'en occupait elle-même de son mieux. Avant de disposer d'une contraception sûre, les femmes avaient souvent des enfants non désirés. On ne leur demandait pas d'être parfaites. Leurs proches les aidaient, les entouraient. Ou bien elles plaçaient leurs petits en nourrice, elles les confiaient à des domestiques. On ne leur en faisait pas grief.
Mmh. Et comment cette idée a évolué au fil des dernières décennies? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là?
Alors, tout a changé durant les années 60-70. Des lois nouvelles ont fait de la maternité un libre choix. Désormais, une femme décide en toute liberté de donner la vie. On peut dire qu'elle impose la vie à un enfant. Et donc, à cet enfant désiré, le meilleur est dû. La mère voudrait être parfaite, mais elle est vite déconcertée par les exigences du tout petit, par la peine et le souci qu'il donne. Elle pâtit.
En tout cas, au vu de ce contexte-là, il y a une pression qui pèse sur les épaules des femmes. Elles choisissent, donc il faut qu'elles assument.
Oui. Mais c'est devenu de plus en plus difficile parce que les sciences médicales et les sciences psychologiques ont multiplié les consignes, les injonctions, les recommandations. La charge augmente, ce qui crée un véritable désarroi, une responsabilité pour les plus faibles. Et c'est la mode de dénoncer ça, nous venons de l'entendre.
Et que doit transmettre, selon vous, une mère à sa fille sur ce sujet, donc de la maternité?
Elle doit transmettre des informations prudentes concernant d'abord le corps de femme. Les règles, la grossesse, l'accouchement sont des épreuves parfois pénibles et qui laissent des séquelles. C'est le principal obstacle à l'égalité des sexes. Les hommes sont libres de leur corps. Mais en même temps, une mère peut transmettre aussi, par son seul exemple, l'idée que la maternité procure un bonheur intense, un épanouissement charnel et affectif incomparable. Et aussi, j'ajouterai, un équilibre psychologique. On a un but, on se sent utile, reconnu. Mais il faut pouvoir compter sur le père. Hein. La mère doit transmettre cette idée que on ne doit pas prendre le risque d'enfanter sans un appui masculin. Encore faut-il évidemment que le partenaire soit conscient et s'apprivoise. On vient de l'entendre aussi.
Oui, ce qui est compliqué aujourd'hui puisqu'on a beaucoup de mères célibataires. Donc pour vous, il ne faut pas faire croire à sa fille, par exemple, que la maternité est un lieu de délices.
Non, bien sûr. Par contre, il faudrait leur apprendre autre chose, qu'elles élargissent leur horizon et qu'elles rapprochent la maternité et la citoyenneté. Enfin, les femmes ont acquis tous les droits politiques. Elles n'en tirent aucun parti. Ce serait à elles d'intervenir dans toutes les instances de pouvoir pour obtenir les réformes utiles et améliorer leurs conditions. Au conseil municipal, au conseil général, au parlement, dans les syndicats, dans les associations. Elles ont un pouvoir immense dont elles ne savent pas se servir. Je leur dis courage, débrouillez-vous.
pour assurer une égalité homme-femme qui n'est pas encore totalement réelle, et notamment dans le monde du travail, où c'est encore compliqué quand on veut être maman.
Oui, bien sûr. Mais là, qu'est-ce qu'elles attendent pour essayer de faire changer les choses?
C'est difficile, mais
elles veulent travailler. Les enquêtes que nous poursuivons actuellement dans mon association prouvent qu'elles ne renonceront pas à gagner leur vie, non seulement pour assurer leur autonomie économique, mais aussi parce que elles souhaitent faire reconnaître leurs aptitudes, leurs compétences, avoir des relations personnelles, etc. Donc, il ne faut pas croire qu'elles renonceront à travailler. Elles ne renonceront pas. Simplement, il faut qu'elles apprennent à exiger que le service qu'elles rendent à la société en faisant des enfants, ou au moins un enfant ou deux, ce service-là doit être reconnu. On doit trouver une reconnaissance. Il ne s'agit pas d'inventer un salaire maternel, ça non. Au point de vue éthique, c'est inacceptable. Mais il faut trouver d'autres modes de reconnaissance, et par exemple l'aménagement du travail, l'écoute des femmes au niveau politique.
Le combat continue en tout cas pour les prochaines générations de mères. Et comment vous envisagez-vous le futur? Est-ce qu'elles se sentiront dans les prochaines années autant coupables qu'aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment un phénomène de génération? Ou est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va lâcher du lest par rapport à cette pression qu'on se met sur les épaules quand on veut devenir maman?
Je ne lis pas dans le marc de café, je n'en sais rien. Je vais vous répondre que c'est à elles que l'avenir appartient. C'est à elles d'envisager des changements. Et elles n'obtiendront des changements positifs que si elles prennent conscience du pouvoir politique dont elles disposent. Je crois que la maternité est un pouvoir politique, on n'en a pas pris conscience. C'est le moment d'en tirer parti de ce pouvoir.
Et de s'emparer de ce pouvoir. Merci. Merci beaucoup Yvonne Knibiller pour votre éclairage et pour votre message engagé. Fabienne Sardas, comment vous réagissez?
Moi, à les avoir écoutées pendant une dizaine d'années et à le faire encore dans le privé, je sens qu'elles ont pris le pouvoir. Elles ont pris le pouvoir et elles ont pris conscience de la solidarité possible dans les groupes de femmes, de la solidarité qui peut être mis en mouvement, parce que aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a des forums, on a des blogs, on ose libérer une certaine parole. Ça, c'est un acte politique. On a libéré vraiment leur inquiétude. Elles ont en général maintenant à peu près 30 ans. Dans les classes favorisées, quand elles ont leur premier enfant, elles en ont 32, voire 34. Donc, ce sont des femmes qui travaillent, qui sont en couple. Elles ont bien sûr aujourd'hui la peur de perdre leur travail, la peur de quitter leur conjoint ou d'être quittée par leur conjoint. On ne parle pas non plus des couples, de l'homoparentalité, des coparentalités, des parentalités recomposées. Voilà le monde aujourd'hui dans lequel on est. Et je trouve qu'elles restent des guerrières et elles osent le dire. Moi, elles m'émeuvent énormément. Elles sont des battantes. Quand elles font confiance en la solidarité du groupe, et bien là, elle pose un acte et ça marche. On a des blogs Fabuleuse Maman, par exemple, on a des associations, on a des tas de choses qui se sont organisées. Donc, elles ne font pas qu'être toutes seules à materner leurs petits en pleurant. Hein.
Et aujourd'hui, 15% des couples ont actuellement recours à la procréation médicalement assistée. On peut imaginer que ça rajoute aussi une pression supplémentaire sur les épaules des femmes.
Oui, alors vous êtes sensible à ce sujet, bien sûr. Moi, je pense qu'elles font double parcours, parce qu'un parcours, bien évidemment, d'aide médicale à la procréation est un parcours lourd. Hein, de 2 ans, 3 ans, le bébé devient plus précieux. Il l'était déjà, mais alors là, c'est quasiment un enfant divin qu'on attend. On a une médecine qui s'est invitée dans le lit conjugal. On a déjà été effracté de tous les côtés. Quand on arrive dans le parcours de maternité, eh bien là, les choses commencent. Le bébé est là, mais on n'en a pas fini. Donc ce sont des mamans fatiguées, épuisées et qui ont moins de ressources que d'autres. Hein. Elles doivent encore en trouver et elles vont en trouver, bien évidemment. Mais moi, je les trouve vaillantes, extrêmement vaillantes.
Réjeanne Aéro.
Oui, pour rebondir sur ces histoires de parcours médicalisés, effectivement, ce que disent un certain nombre de psys, et vous venez de le dire, c'est que des parents qui ont médicalisé un parcours, soit à la préconception, soit pendant la grossesse, n'ont pas appris à se faire confiance. Et la nécessité de confiance dans soi, dans ses capacités à faire, elle est hyper importante. Et dans son témoignage, l'historienne parlait d'injonction. Et ce dont on n'a pas besoin d'injonction ni de conseils, de énième conseil. Ton enfant, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ce dont on a besoin, c'est de soutien.
Et pourtant, on en a beaucoup, j'imagine.
Oui, mais moi, ça m'a brouillé la tête que ma belle-mère me dise un truc, que quelqu'un d'autre me dise autre chose. Je n'écoutais plus mon instinct de mère, mon retour à cette confiance, à cette primalité, à ce truc un peu animal qui nous relie à l'enfant. Et en fait, c'est là que ça se joue. Et c'est ça qui doit être porté. Moi, ce dont j'avais besoin, et les psys le disent, c'est d'un accompagnement au sens... On est là pour toi, fais-toi confiance, c'est bien ce que tu fais.
Et pas culpabilisant, tu devrais faire ça. Mais
pas culpabilisant, pas tu devrais faire. Juste, c'est bien, je comprends. Le je comprends, c'est vachement important. C'est important dans la relation qu'on a à son enfant, quand il grandit, qu'il a un problème. C'est pas de énième conseil, je comprends, je suis là pour toi. Et quand on devient parent, on a besoin de ça aussi. Parce que ce qui se joue, ce que moi j'ai compris au niveau, c'est que c'est vraiment un changement d'identité. Et plutôt de crisper sur l'identité qu'on pensait avoir, on peut se dire je m'élargis. C'est quoi ma pleine capacité d'accueil? C'est quoi ma pleine capacité d'amour? D'être là pour les miens, le temps que je le souhaite, et que c'est pas incompatible de la femme que j'étais avant. C'est juste un élargissement d'identité. Devenir parent, c'est une étape dans une vie. Et je trouve ça hyper important.
Et il faut l'accepter.
Et que cette puissance de la douceur, c'est ça aussi l'identité d'une mère ou d'une femme. Et que c'est peut-être ça, socialement, politiquement, qu'il faut porter. Dans la création des réseaux de solidarité. Dans cette capacité de dire « je fais, mais je fais autrement ». Oui, j'y arrive pas seule. Mais le réseau de solidarité autour de moi, il est où ? Il est où, mes amis à qui j'ose dire « ne m'apportez pas un doudou, venez me faire la cuisine ». Ne venez pas me papoter autour d'un thé, venez m'aider, prenez-moi l'enfant 20 minutes, quoi.
Du concret.
C'est de la solidarité. C'est un enfant, peut-être que ça. Et ça vient percuter ce sentiment de solitude et d'insécurité dont on n'ose pas parler. C'est recréer la solidarité.
Je crois que vous dites quelque chose d'extrêmement important, qui est la capacité à donner d'une mère. Vous disiez ça, je m'élargis. Moi, je pense qu'on n'a pas toutes les mêmes capacités à donner. Ça va d'ailleurs se jouer sur toute une vie. On va apprendre à donner. Donc, je crois que ça attaque en direct ce noyau-là.
Et d'ailleurs, certaines femmes font des baby blues, voire
oui,
des dépressions
parce qu'elles se sont déprimées, parce que c'est le bébé qui est devenu premier, c'est le bébé qui est un enfant roi. On a mal compris cette histoire du bébé est une personne. Dolto disait le bébé est une personne qui est en possibilité d'entendre ce d'où il vient et son histoire. Alors on a rétréci cette histoire du bébé est une personne, un enfant roi. Donc, on va se déprimer parce que, en effet, ce bébé a pris toute la place. Et la capacité de don de chacune est quelque chose qui va prendre forme. On met 9 mois pour faire un enfant, mais on n'a pas encore fait un enfant. On devient mère, mais on va mettre une vie à devenir mère. C'est avec plusieurs enfants qu'on va devenir mère. Ça prend une vie. Ça prend une vie. Donc, donnons-nous le temps. Cette capacité à donner, il faut se faire confiance. Alors ça, je le dis tout au long du livre que j'ai écrit. Il faut renforcer ses capacités. On en a, on va les trouver. Le don, on va le faire éclore aussi.
Et on va reparler de cette quête, justement, d'une maternité sereine. Les voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Et on va accueillir très bientôt un auditeur dans quelques instants après Papa de Hocus Pocus.
J'ai pris un coup de vieux quand ce mot m'a dit monsieur. Des piges de plus à chaque bout, je l'ai lu dans ses yeux. Chacun de ses regards me pousse à 2 mètres sous terre. Et c'est vrai que je pourrais être son père. Je crois que ce prénom m'irait pas. Moi, tu le vois dans mes bras? Non, il n'aurait peut-être mes yeux, mon nez, ma bouche. À tout sur ma peau car trop souvent plein les couches. Je suis pas prêt à prêter mes Lego, à mettre de côté mon ego. Pas prêt à lâcher le micro, éviter les gros. À poser le stylo, écraser le mégot, partager mes haribos et mes jeux vidéo. Non, je suis pas prêt sauf si en théorie je passe mon tour sur l'insomnie, l'acné et les concerts de Laurie. Qui sait ce qu'il pourrait devenir, toxico, criminel ou pire, fan de Tokyo Hotel. Je crois que ce prénom m'irait pas. Tu crois que ce prénom m'irait toi? Je crois que ce prénom m'irait. prénom m'irait pas. Tu crois que ce prénom m'irait toi? Je crois que ce prénom m'irait. Ça fait yeah, un yeah. Parfois j'ai douté, été tenté d'écouter. Croquer un petit bout, bonne joue et petit nez. Un modèle réduit, mais j'ai une peur panique d'avoir un bambin doté de cordes vocales bioniques. Peur d'être convaincu que c'est un génie, que dans trois tâches pourries je vois un futur Dali. Peur d'entendre ses premiers mots et voir ses premiers pas, son premier rendez-vous Pôle emploi.
Et nous sommes en ligne avec Babacar qui est à Dakar. Bonjour Babacar.
Oui, bonjour les 7 milliards de voisins.
Vous êtes père, vous. Alors racontez-nous, oui. Comment ça se passe?
Voilà, moi alors j'ai 33 ans. Donc là, j'aimerais partager une petite expérience avec les voisins. Donc en fait, j'ai un bébé qui a 2 ans, qui vient d'avoir 2 ans. Mais avant d'avoir le bébé, juste après mon mariage, en fait, on s'inquiétait beaucoup sur l'avenir du bébé. Vous voyez, comment est-ce que en fait, nous allons l'élever, donc en fait, psychologiquement, financièrement, est-ce que nous pouvons tenir avec madame?
Oui, la question des moyens se pose. Puisque
voilà,
c'est un coût, un enfant.
Ouais, très bien. Et à force de en fait, on s'inquiétait au début. Finalement, on a eu voir un psychologue qui et en nous disant que voilà, en fait, comme nous en Afrique, il n'y aura pas de problème, c'est Dieu qui s'en charge. Mais je me dis aujourd'hui, après, ensuite, j'ai commencé à communiquer avec les voisins, d'accord, tout autour de moi, les parents à mes amis, en fait, les 2 à 3 enfants. Mais avec leur conseil, on a pu avoir le bébé. Donc aujourd'hui, ça va, on ne se plaint pas, il est bien, et en fait, ça va quoi. Aujourd'hui, en fait, tout est basé sur en fait, la communication. Donc il faut mieux que si, par exemple, on craint d'avoir du bébé, donc il faut communiquer avec ceux qui ont déjà des bébés.
Oui, pour
et
apprendre.
Là, à force de communiquer, pour apprendre, à force de communiquer, en fait, vous finirez par nous quitter, d'accord.
On finit par quoi? On vous a mal entendu, la ligne a coupé.
Comment?
On n'a pas entendu la fin de votre phrase.
Voilà, je disais qu'à force de communiquer, donc on finira par trouver la bonne solution.
La bonne solution. Merci, ouais, merci beaucoup Babacar pour votre témoignage. Je laisse la parole à un autre auditeur, Rami, qui est à Antony, en région parisienne. Je crois qu'il a... Bonjour Rami.
Bonjour.
Je crois que vous avez des questions à poser à nos invités.
Oui, bien sûr.
Alors, on vous écoute.
En fait, moi, ma question est simple, c'est que je vais, depuis que ma femme elle est enceinte, le problème, c'est que chaque fois, je la trouve vraiment fragile. Et elle a tendance à s'énerver beaucoup, des fois. Et des fois, j'essaie de me canaliser pour pas la mettre en colère. Il m'arrive même, dans la nuit, de pas dormir et de veiller sur elle. Et j'ai aussi une autre question vite fait.
Allez-y.
Que, en fait, elle le sait déjà. J'ai envie de retourner à Nice parce que je suis né et j'ai grandi là-bas.
Vous voulez déménager?
Mais voilà, sauf qu'elle, elle n'est pas d'accord. Enfin, elle est d'accord que moi, je parte. Mais la relation à longue distance...
Ouais, c'est compliqué avec un enfant.
Voilà. Après que l'enfant il a 3 mois, 4 mois... Je me suis dit que je viendrai les week-ends et tout ça. Mais dans mon esprit, je me pose beaucoup de questions sur ça. Parce qu'après la naissance, voilà quoi.
Oui,
je ne sais même pas comment je vais être, si je vais bien m'occuper de lui.
À distance, ça risque d'être compliqué. Je laisse répondre Fabienne Sardas.
Je répondrai très, très simplement à Rami que quand on fait le nid, on a besoin d'une vraie sécurité. Alors, cette compagne qui est anxieuse, qui n'est pas très canalisable, c'est vrai qu'elle fait son nid et à la fois, elle a des incertitudes. Où est-ce qu'on va être? Où est-ce qu'il va être? J'ai l'impression qu'en effet, la femme demande à être rassurée, à être sécurisée. Dans les couples hétérosexuels, homosexuels, enfin, je veux dire, c'est la même chose. On a besoin que l'autre vous rassure. On a besoin que le terrain soit un peu stable et que le nid ne soit pas château branlant. Donc voilà, je crois que la capacité rassurante, voire presque maternante du père est indispensable pour moi.
On a répondu à vos questions, Rami?
Oui, c'est... Moi, j'ai envie d'être là, mais simplement qu'à Paris, j'ai vécu pendant 8 mois et je ne me sens pas dans mon élément.
Vous voulez partir.
Mais j'ai pas envie de faire du... Oui, c'est comme décision que j'ai vraiment pris à partir d'octobre, novembre. mais il y a un côté en moi qui me dit de ne pas partir.
Oui, moi, je crois quand même que l'arrivée du bébé bouleverse. Hein, l'arrivée du bébé bouleverse, elle inscrit quelque chose. Ce bébé n'est pas encore là. Elle est enceinte de 5 mois, je crois, hein, votre compagne. Vous verrez quand l'enfant sera là. Peut-être il y a une temporalité quand même. Il va lui-même inscrire les choses dans le temps. Mais peut-être que votre projet auquel vous tenez, votre propre sensorialité, votre besoin de lumière, votre besoin de la mère, sont tout à fait louables. Et à la fois, il faut inscrire le projet de chacun dans une temporalité. Le projet familial prime quand même. Hein. Donc, il faut pouvoir aussi différer un petit peu, garder en soi sa rêverie, ses envies, mais différer.
Merci beaucoup, Rami, pour vos questions. On arrive à la fin de cette émission. Réjeanne Hérault, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour assister mieux les parents et notamment les mères dans ce grand saut dans l'inconnu ?
Je crois qu'il faut vraiment réfléchir à la question de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on médicalise, mais qu'est-ce que c'est qu'accompagner quelqu'un ? Avant la grossesse, pendant la grossesse.
Et c'est le cas dans certains pays.
Oui, il y a des traditions qui sont à peu près similaires dans des tas de pays. C'est-à-dire que, par exemple, au Gabon, pendant 40 jours, une mère qui a accueilli un nouvel enfant était accompagnée par une femme aguerrie qui venait la laver, qui venait lui faire la cuisine, le ménage, et qui lui prenait le bébé quand ça n'allait pas.
Un vrai soutien.
C'était la même chose en Inde, pour que la mère puisse se concentrer sur elle et sur l'enfant.
Merci à vous, Réjeanne Hérault, Fabienne Sardas. Merci à vous, les voisins et les voisines. À très bientôt.
Merci.
C'est pas du